Bonjour à chacun. Bonjour spécialement à ces jeunes qui êtes avec nous ce matin. C'est un plaisir de pouvoir passer ce culte avec vous. Aujourd'hui et ce week-end plus largement, vous vivez quelque chose de spécial dans votre cheminement dans l'Église, mais aussi dans votre cheminement de foi. Et pour nous, je parle en notre nom à tous, mais je pense que beaucoup s'associent à moi pour dire que c'est un plaisir de pouvoir vous accompagner ce matin dans cette étape de vie. Alors, vous avez déjà un avant-goût de ce dont on va parler, mais je ne sais pas comment vous regardez parfois en arrière sur votre enfance ou votre jeunesse. Est-ce que vos parents vous ont souvent dit « sois sage, sois sage, soyez sage ». Les enfants, on part au restaurant, restez sages. Alors peut-être que vous êtes parents aujourd'hui, c'est ce que vous leur dites, soyez sages. Hein. Et qu'est-ce qu'on met sous ce mot finalement, soyez sages? Quand on sort un peu de l'enfance, on se dit « ah ça y est, on va pouvoir s'émanciper un peu de ces demandes d'être sage, sage, sage ». Puis en fait finalement, nos parents, la société, les écoles, nos employeurs continuent de nous demander en fait d'être sages d'une certaine manière, en disant de faire de bons choix, de faire des choix qui sont remplis de bon sens, de choisir le bon conjoint, celui qui va plaire aux beaux-parents, ou de faire la bonne filière d'études, celle qui aura du succès, où il y aura des débouchés. Et on est tout le temps confronté à cette question d'être sage. Mais qu'est-ce que c'est que cette question d'être sage? Alors justement, c'est un peu inhabituel dans une église de lire ce que Bouddha a écrit et a dit, mais une fois n'est pas coutume, on va le faire ce matin. Bouddha, lui, dit... J'appelle sage celui qui, tout innocent qu'il est, supporte les injures et les coups avec une patience égale à sa force. Voilà la définition de la sagesse pour Bouddha. C'est vrai qu'on a beaucoup de figures marquantes dans notre société, mais aussi dans les librairies, Bouddha, Gandhi, on a différents personnages. Si on veut se renseigner sur la sagesse, on peut aller acheter leurs livres et essayer de comprendre quelle est cette sagesse. Mais une sagesse qui est finalement un petit peu une sagesse un peu zen, comme ça, où on supporte les choses et on essaye de rester maître de soi et de tout vivre avec le bon côté des choses. La Bible aussi nous parle de sagesse. Est-ce que c'est la même sagesse dont il est question dans la Bible? C'est ce matin ce que j'aimerais qu'on découvre ensemble. Alors il y a bien sûr un livre qui nous vient à l'esprit quand on parle de sagesse, c'est celui des Proverbes. De nouveau, tout plein de maximes qui nous disent comment faire les bons choix, comment bien vivre sa vie. Et ce matin, on va lire un passage de ce livre des Proverbes où la sagesse, représentée sous les traits d'une femme, se présente. Et c'est ce qu'on va lire ce matin. C'est pas anodin si on lit ce texte ce matin, parce qu'on accompagne des jeunes qui passent à une nouvelle étape de vie. Alors, on va voir ensemble comment cette sagesse nous accompagne dans les étapes de vie. Mais pour chacun d'entre nous aussi, je pense qu'on a tous besoin de plus de sagesse, moi la première. Et on peut toujours apprendre de ces textes-là. Alors, je vous invite à la lecture de Proverbes 8, les versets 22 à 36. Vous verrez, c'est une lecture un peu particulière parce qu'elle sera sous forme de vidéo, entre autres. Mais pour ceux qui ont leur Bible, vous pouvez aussi les ouvrir. Proverbes 8, les versets 22 à 36. Le Seigneur m'a créé la première, avant toutes les autres choses qu'il a faites. Il m'a formé depuis toujours, au commencement de tout, avant que le monde existe. À ma naissance, les mers n'étaient pas encore là. Il n'y avait pas de source remplie d'eau. Je suis née avant la formation des montagnes. Avant les collines. À ce moment-là, le Seigneur n'avait pas encore fait la terre, ni les champs, ni le premier grain de poussière du sol. J'étais là quand il a posé solidement le ciel, quand il a tracé l'horizon au-dessus des mers, quand il a fixé les nuages en haut, quand il a donné leur force aux sources d'en bas. Quand il a mis des limites à la mer, quand il a commandé à l'eau de ne pas les dépasser, quand il a placé les fondations de la terre. Pendant ce temps, j'étais là, près du Seigneur, comme un architecte. Jour après jour, je lui donnais de la joie, je jouais sans cesse devant lui. Je jouais sur le sol de la terre qu'il a faite, et j'ai trouvé ma joie parmi les humains. Ils sont heureux ceux qui écoutent la sagesse. Et maintenant, mes enfants, écoutez-moi. Ils sont heureux ceux qui font ce que je dis. Écoutez mes avertissements pour être des sages. Ne les méprisez pas. Ils sont heureux ceux qui m'écoutent, qui veillent chaque jour à ma porte, qui surveille l'entrée de ma maison. Oui, celui qui me trouve a trouvé la vie, et le Seigneur l'approuve. Mais celui qui ne me trouve pas se blesse lui-même, et tous ceux qui me détestent aiment la mort. Un beau CV de ce personnage de la sagesse, illustré avec ces images qui nous rappellent combien la création est belle. Et finalement, dans ce livre des Proverbes, on découvre que connaître la sagesse est une fin en soi du livre. Et c'est pour ça qu'elle a tellement d'importance pour nous ce matin.
Alors attends, Nathalie, juste, je comprends pas bien là. Tu nous parles d'une sagesse donc très ancienne, dans un livre très ancien. Et une sagesse qui devrait venir nous guider dans notre vie. Puis là, je ne sais pas vous, mais la plupart d'entre nous, on a des smartphones, on a des applications, on peut avoir un GPS depuis notre téléphone, on peut ouvrir Google, faire une recherche. Et toi, tu nous parles d'une sagesse ancienne qui viendrait là nous dicter notre vie, savoir comment on devrait vivre aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous voyez de quoi elle veut parler, mais j'aimerais que tu nous en dises un peu plus. Je ne vois pas en quoi ça viendrait venir m'apprendre quelque chose là, aujourd'hui.
Merci pour cette intervention. Mais ça soulève une question intéressante, parce que c'est vrai que cette sagesse dont il est question n'est pas un simple canevas pour nous apprendre à vivre la vie. Et ce n'est pas ça qu'on va voir ce matin, un canevas pour apprendre à vivre la vie après le caté ou après nos différentes étapes. Non, cette sagesse est différente. On peut dire que cette sagesse est une sagesse nécessaire. Elle est essentielle, elle est vitale pour nous, pour chacun d'entre nous. Elle est supérieure à justement cette sagesse humaine qui a développé des technologies, qui développe notre savoir, qui développe différentes choses. En quoi est-elle supérieure? Alors, vous avez peut-être entendu là dans le texte et puis vu avec ces images qui ont été diffusées. Une première chose, c'est que cette sagesse, elle existe depuis toujours. Elle existe depuis toujours. Le texte parle beaucoup avant la fondation du monde, avant la création, avant toute chose, la sagesse était là déjà. Alors on a souvent les personnes d'une génération au-dessus de la nôtre qui nous disent « Oui, je peux t'apprendre une leçon parce que j'ai vécu des choses, j'ai vécu une expérience, j'ai déjà vécu ça, donc apprends de mes erreurs et fais mieux. » En général, on a beaucoup de mal à s'appuyer sur ces conseils-là et à s'appuyer sur l'expérience des autres pour apprendre à mieux vivre notre vie de chrétien ou notre vie en général. Mais cette sagesse, elle dépasse encore cela. Ce n'est pas une sagesse de la génération précédente, c'est une sagesse qui a tout vu, tout connu et même tout créé. C'est une sagesse qui était là bien avant tout ça. Et c'est le deuxième point, elle a participé à la création. Elle a participé à nous créer, nous. Elle a participé à créer le monde, à créer toutes ces belles images qu'on a vues ce matin de la terre. Toutes ces œuvres qui sont racontées nous rappellent beaucoup le texte de la Genèse, tout ce qui a été créé. Donc cette sagesse, elle n'est pas seulement spectatrice de cette création, mais elle est là, elle est active, elle agit. Et en cela, elle est grande, supérieure, elle a une autorité pour nous. Finalement, cette sagesse, Au contraire de la sagesse humaine, elle paraît bien divine, une sagesse divine. Elle s'apparente à Dieu, puisque c'est lui qui crée, finalement, avec la sagesse. Et il y a un texte, d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, qui ressemble étrangement à ce texte des Proverbes, peut-être que vous y avez pensé en l'entendant. C'est un texte qui se trouve au début du Nouveau Testament, dans un évangile, qui annonce la venue de Jésus, en Jean 1. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses, il n'a rien fait sans elle. En elle, il y a la vie, et la vie est la lumière des êtres humains. Et un verset un peu plus loin nous dit que cette parole, elle est devenue homme, et ça a été Jésus qui est venu habiter parmi nous. Il y a comme une étrange ressemblance entre cette parole et cette sagesse, vous ne trouvez pas ? Une parole, une sagesse qui était là avant toute chose, dès le commencement, qui était avec Dieu, aux côtés de Dieu, qui a participé à la création et qui porte la vie. Jésus, ce Jésus qui est venu marcher parmi nous, parmi les hommes, ce Jésus qui était présent aux côtés du Père depuis toujours, ce Jésus qui est venu sur terre pour nous offrir le pardon des péchés, pour nous offrir une réconciliation avec le Père. Ce Jésus, c'est la figure, l'incarnation parfaite, l'image parfaite de cette sagesse-là. Et alors, qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change pour nous, qui sommes dans telle étape de notre vie ? Qu'est-ce que ça change pour moi, qui ai 15 ans, 16 ans, qui ai bien d'autres choses à réfléchir ? Qu'est-ce que ça change pour moi aussi ? Bah c'est bien beau, c'est vrai, une belle sagesse millénaire, comme tu disais, Anthony, quelque chose d'un peu flou, voilà, une sagesse qui remonte à très longtemps, comme on en voit dans les livres. Mais qu'est-ce que ça change pour nous ? Cette sagesse, elle ne fait pas que se présenter dans le texte. Elle nous lance un appel direct à nous tous qui l'avons écouté. Elle nous lance un appel. Et maintenant, mes enfants, écoutez-moi. Une invitation à écouter cette sagesse. Bon. C'est ce qu'on a fait ce matin, en fait. Hein. On a lu le texte avec une vidéo, c'est bon, on a écouté. Non, il y a une écoute différente qui est demandée, là, pas seulement écouter avec les oreilles, mais une écoute qui va nous mettre en mouvement, qui va nous mettre en action, qui va nous pousser à agir. Une écoute qui est active, une écoute qui est attentive. Et puis, après cette invitation à écouter, les conseils ne se font pas attendre pour nous tous. Écoutez mes avertissements pour être vous aussi des sages. Ne les méprisez pas. Cette sagesse, elle nous invite à l'écouter, mais elle nous propose d'être nous-mêmes sages. Elle se donne en fait en quelque sorte à nous. Elle nous partage sa sagesse pour que nous aussi, nous puissions être sages. Alors bien sûr, l'écoute des conseils de nos parents, de la société, de nos employeurs, de nos professeurs nous amène aussi à la sagesse. À savoir faire les bons choix. Mais là, cette sagesse est vraiment différente, je crois. C'est une sagesse qui nous invite à être sages avec des actes, à être sages en agissant. Pas être bien assis sagement, comme vous l'êtes tous sur vos chaises, à écouter, mais à agir, à se mettre en mouvement. La sagesse qui nous est décrite dans ce texte n'est pas passive, elle est active. C'est une attitude active. Elle mène à l'action. Alors maintenant, on m'a posé une question. J'en ai d'autres pour vous maintenant. Qu'est-ce que ça change pour vous, cette sagesse-là ? D'être actif, d'écouter la sagesse. Concrètement, comment vous le vivez dans votre vie ? Comment vous l'illustrez ? Ça m'intéresserait de savoir, on est différentes générations ici. On est certains qui venons très régulièrement au culte, certains qui sont de passage, certains qui nous rejoignent pour un culte ce matin. On a tous des contextes différents. Qu'est-ce que ça change finalement concrètement pour vous, cette sagesse ? Comment vous la vivez dans votre vie ? C'est une vraie question et il y a un vrai micro qui va passer.
Ben, si on écoute la sagesse, je pense que ça nous évite de faire des faux pas et d'aller dans des fausses directions. Donc, c'est une sorte de garde-fou. pour notre vie, pour moi en tout cas.
Mm-hmm. Merci, ouais, dans les choix, mm-hmm. Les garde-fous, ouais, merci.
Personnellement, moi, je trouve que c'est très compliqué d'écouter la sagesse, parce que ça veut dire qu'on va essayer de faire des choix par rapport à une situation. Mais en fait, il y a plein de critères de choix qu'on peut faire pour décider ce qu'on va faire. Mm-hmm. Parfois, on pense que ce qui nous semble être juste, c'est un critère de choix. Alors que parfois, ce qui va amener la vie, c'est un autre critère de choix et ça n'amènera pas du tout le même chemin dans la même situation. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui nécessite vraiment beaucoup de temps devant Dieu.
Mm-hmm. Ouais, c'est vrai. Merci.
Sans micro.
Mais avec une bonne voix, donc ça va.
Pour moi, un élément de la sagesse, c'est de regarder ce qui ne va pas. Il y a plein de choses qui ne vont pas dans la vie, dans notre vie, dans la vie des autres. Plein de choses qui blessent, qui tuent, plein de choses qui nous mènent dans des chemins de mort. Ben ça, il ne faut pas le suivre.
Ouais, merci. On le reconnaît aux fruits, finalement. Et la jeune génération, qu'est-ce que vous vivez? Quelle est votre image de la jeunesse, de la jeunesse aussi, mais de la sagesse? Qu'ils sont sages.
Ah bah. Ben, un truc qui est assez dur pour moi, c'est que c'est vrai que pour avoir la sagesse, il faut prendre du temps. De se plonger dans la parole le matin et de le remettre au Seigneur et c'est un combat déjà tout le matin de pouvoir réussir à se plonger dans la présence du Seigneur et savoir ce que tu désires pour nous dans la journée et c'est une lutte. Je vois tout de suite la différence quand je commence à me plonger avec le Seigneur et que je ne le fais pas.
Mm-hmm. Ouais. Merci beaucoup, merci pour toutes ces réponses. Ah, peut-être encore. Allez, est-ce qu'il y a quelqu'un de frustré? Mais du coup, il y a quatre mains. Oula.
Je vais prendre la
Alors,
plus,
on va
je
condenser
plus jeune.
Les
je vais
interventions.
La plus jeune.
Ouais, voilà. Une jeune pour terminer.
Ben, on peut lire que la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et je pense qu'on sent au fond de nous ce qui est juste, ce qui n'est pas. Plus on lit la Bible, plus on voit les bonnes décisions, les mauvaises. Et c'est vrai, je pense, c'est juste en se poser des questions et justement arrêter de lutter et se dire, ben voilà, je fais la décision qui est juste, qui est sage, et après ça porte les fruits, sans vouloir peut-être remettre en question toujours tout. Voilà.
Merci beaucoup, merci pour toutes ces réponses qui nous font grandir ensemble et découvrir ce qu'est d'être sage aux yeux de Dieu. Et c'est vrai qu'effectivement, la sagesse, je pense aussi, est un processus, comme tu l'as bien dit dans ta dernière intervention. On est toujours en chemin pour aller vers ce processus de la sagesse, d'être sage aux yeux de Dieu. Et aujourd'hui, c'est un vrai défi, je pense, aussi pour nous, dans notre société, de trouver cette sagesse et de savoir l'appliquer. Et on est tous sur ce chemin-là, qu'on soit jeune chrétien, vieux chrétien, qu'on soit d'un certain contexte ou d'un autre, à l'école du dimanche, au cathé, au culte, on est tous sur ce même chemin, on le vit ensemble. Et ce processus, effectivement, c'est bien ressorti aussi de tout ce que vous avez pu partager, et toujours un équilibre difficile à trouver entre ce qui nous paraît juste, ce qui nous paraît juste aux yeux de Dieu aussi, et parfois on se trompe, parfois on fait des erreurs. Finalement, tout cela est mis en balance, c'est un équilibre final à trouver pour vivre cette sagesse qui vient de Dieu. Pour terminer, en revenant aux paroles de Bouddha au début, la sagesse comme elle nous est présentée dans la Bible, n'est pas justement cette sagesse passive, zen, qui supporte tout. Non, c'est une sagesse qui se met en mouvement, qui est active, qui recherche la volonté de Dieu et qui l'applique dans la vie. Et c'est ce que ce matin, c'est ma prière ce matin, qu'on puisse découvrir chaque jour, entrer dans ce processus et découvrir de plus en plus quelle est la sagesse que Dieu nous demande de vivre. Et quelle que soit notre étape de vie, et ce matin, c'est vrai, on a la chance de partager avec vous votre étape de vie, de passer du cathé à la prochaine étape. Et on prie aussi que la sagesse puisse vous accompagner, tout comme on prie qu'elle puisse nous accompagner chacun, on en a tous besoin. Alors, je vais terminer par cette prière-là, justement. Seigneur, merci parce que C'est toi finalement qui incarne complètement cette sagesse. C'est toi qui représente cette sagesse et tu nous la partages, Seigneur. Tu nous invites à l'écouter, mais tu nous la donnes en même temps. Seigneur, ma prière ce matin, notre prière ce matin, c'est de recevoir encore plus de cette sagesse, recevoir encore des morceaux de cette sagesse, comme Salomon a fait la prière d'être sage. Nous aussi, Seigneur, nous voulons faire cette prière-là. Donne-nous ta sagesse, que nous sachions faire les bons choix, que nous sachions discerner ta volonté, avancer sur le chemin de la foi en étant proche de ce que toi tu veux, de ton plan, de ta volonté pour nous. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Accompagne-nous. Sois présent à nos côtés à chaque étape de notre vie. Amen.